Et donc, je passe la parole à Madame Clara Schmelk, journaliste et autrice chargée de cours à Sciences Po Strasbourg.
Merci beaucoup. Moi, je vais essayer de vous parler vraiment de la défiance dans l'information et dans les médias, qui est une caractéristique des nouveaux usages, notamment en ligne. Il faut savoir qu'en 2021... En 2021, les 18-34 ans s'informaient à 75% directement sur Internet. Donc, c'est-à-dire pas forcément sur les sites des journaux, mais directement sur les réseaux sociaux. Alors, ça peut être les plus connus comme Facebook et Twitter, et des réseaux moins connus comme, et surtout des messageries en ligne comme WhatsApp ou Telegram, où là, ce n'est pas transparent du tout, puisque vous recevez les informations en fonction... des amis que vous avez, des messageries que vous avez construites sur ces réseaux. Donc on a ce contexte qui produit de la défiance. Et de l'autre côté, on a une force en France qui est comme assez remarquable. C'est un réseau de bibliothèques publiques, de lecture, où les citoyens, partout sur le territoire, vont pouvoir se réunir et lire, et de manière universelle, puisqu'en fait, ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est pas des bibliothèques privées avec des fonds qui seraient dotés par des groupes d'intérêt ou des donateurs particuliers. Non, c'est de manière à la fois singulière, puisque chaque bibliothèque est particulière, et en même temps universelle, puisque les règles sont les mêmes. Quand une bibliothèque se dote de fonds, elle a des règles de déontologie qui sont les mêmes sur tout le territoire. Donc ça, c'est une base, un fondement démocratique qui est visible sur le territoire. Face aux plateformes, et c'est pour ça que c'est confiance dans l'information, quel rôle pour les bibliothèques, face aux plateformes qui sont dans le particularisme, où chacun se crée son cocon, c'est plus qu'une bulle de filtre, en fait, c'est vraiment un cocon, donc on régresse. On n'est plus des papillons, on est des petites chenilles minuscules, recroquevillées. On crée notre petit cocon d'information avec des biais de confirmation. Alors cette attitude... On dit toujours que c'est les plateformes qui, bien sûr, monétisent cette attitude, mais à la base, c'est de la psychologie. On va vouloir être porté par ce qui nous réconforte. Donc, par exemple, politiquement ou sociologiquement, on a plaisir à voir des informations qui vont dans le sens des opinions qu'on a pu contracter. Or, la bibliothèque, c'est tout autre chose. C'est vraiment autre chose que l'algorithme. C'est un labyrinthe. Et là, on revient à John Dewey, dont parlait l'intervenant tout à l'heure. Avec John Dewey, il n'y a pas de ça. La classification est scientifique. Donc il y a une extériorité qui se crée. L'extériorité déjà du lieu, de la bibliothèque, il faut se déplacer. On n'est pas chez soi avec son petit smartphone, le petit périmètre de son smartphone. On sort, on se déplace dans un lieu où il y a d'autres personnes qui sont tout à fait différentes de nous. Donc déjà, expérience de vivre en commun, pas forcément ensemble, mais en même temps, au même endroit, et selon les mêmes règles. Et deuxième chose, les livres ne sont pas rangés selon ce qui nous plaît, comme dans notre bibliothèque personnelle ou encore pire sur notre smartphone, mais selon la classification scientifique de John Dewey. Donc ça va nous amener, à chaque fois que je vais en bibliothèque depuis que j'ai 8 ans, à voir des livres auxquels on n'avait pas du tout pensé, et même qui peuvent nous choquer ou nous déplaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ça, c'est important pour la confiance dans l'information. Pourquoi? Parce que ça va créer une sorte de contrepoids à la logique qu'installent les plateformes, aux logiques de lecture qu'installent les plateformes. Donc, je veux revenir en premier lieu sur une petite remarque sur les bibliothèques. Il y a eu un rapport sénatorial en 2020 sur l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques publiques. C'est Sylvie Robert et Colette Mélot, deux sénatrices, qui l'ont rendu public en juillet 2020 et qui soulignent le rôle crucial des bibliothèques dans la construction de l'idéal républicain. Et c'est pour ça qu'en tant que journaliste, on s'y intéresse. L'enjeu, c'est la démocratie. La démocratie comme art de vivre, pas seulement comme idéal institutionnel, mais comme art de vivre en pratique. Qu'est-ce qu'on fait le week-end? On va en bibliothèque le soir, où qu'on soit, partout sur le territoire, quelles que soient ses origines culturelles, ses habitudes, si on est rural ou urbain. Donc ces bibliothèques, elles ont connu des évolutions, bien sûr, vous le savez. Elles sont devenues beaucoup plus inclusives. Et c'est pour ça que ça peut vraiment... Elles ont le pouvoir d'être un contrepoids et de devenir des acteurs de la médiation face aux plateformes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'information sur les plateformes qui pose cette question de la défiance envers les médias. Je voudrais revenir en premier lieu sur les facteurs de la défiance dans les médias et la façon dont cette défiance se manifeste et la façon dont les journalistes essayent, les organes de presse essayent de résoudre ce problème par à la fois une meilleure vérification eux-mêmes de leurs propres sources et à la fois par une plus grande participation des lecteurs. Donc là, on revient à l'idée de démocratie participative, ce qui n'est pas du tout opposé à la démocratie représentative, à mon avis, mais qui est une étape, une médiation supplémentaire. Et là aussi, le rôle des bibliothèques, on va le voir plus tard, ça peut aussi être d'encourager des initiatives entre petites salles de rédaction, l'école et justement le lieu de la bibliothèque où on va trouver les ressources, à la fois sur le net et en vrai livre imprimé. Donc, les facteurs de la défiance qui s'est installée dans les médias depuis une bonne dizaine d'années, alors c'est pas nouveau, mais il y a une accentuation, une accélération, et on l'a vu avec ce qui s'est passé avant-hier au meeting, les médias étaient hués. Donc il y a des candidats à l'élection présidentielle qui se présentent avec un argument contre les journalistes. Donc ça, c'est quand même un summum, un acmé de la défiance dans les médias et par là même dans les institutions qui sont accusées d'être en synergie, en symbiose avec les médias. Donc il y a à la fois une déception qui se traduit par une défiance. La déception, c'est de voir des médias qui sont parfois trop centralisés et donc pas assez au cœur des préoccupations des citoyens partout sur le territoire. Là aussi, rôle des bibliothèques, présenter la presse locale, ce que font les bibliothèques départementales, nationales. Donc ça aussi, c'est un rôle d'équilibre, en disant non, bien sûr, les médias se préoccupent de vous, il y a une presse locale qui, de plus en plus, on va le voir, fait participer les citoyens. À chaque fois qu'il y a une sorte de bouffée de défiance, les bibliothèques peuvent être des lieux qui, vraiment visuellement, donc là, c'est concret, disent, bon, bah non, voilà, la démocratie se vit. Vous pouvez circuler dedans, même quand vous entrez dans ce lieu. Il y a quelque chose de très concret, de très visuel. Parce que souvent, la défiance dans les médias est entretenue par des fantasmes. Fantasmes de justement, par exemple, le degré de dépendance de la presse à des tiers, c'est-à-dire à des grands groupes, et la concentration des médias nourrit aussi l'idée que les médias sont dirigés par une petite caste et sont complètement étrangers aux préoccupations et aux enquêtes qui pourraient intéresser les citoyens dans leur ensemble. Alors c'est vrai, il y a des propriétaires des groupes de médias et des annonceurs qui ont une influence sur le traitement de l'information et la liberté d'expression des journalistes. Ça, évidemment, ça nuit à la défiance, parce qu'on va se dire, en raccourci, tiens, ces news, c'est telle mania de la presse, bon, bah, j'éteins la télé. Alors qu'en fait, l'attitude serait déjà d'écouter, de voir comment se construit l'information, qu'est-ce que ça vaut, où ça a été pris. Donc en fait, le relatif degré de dépendance de la presse est un facteur de défiance envers les médias et l'information. Donc c'est de plus en plus tendu de prétendre à l'objectivité et donc à la véracité de l'information. La presse, du coup, en conséquence, ça c'est ce qu'on fait, on cherche à indexer la valeur de nos contenus et de nos services à des pratiques d'autorégulation. L'autorégulation, pour que ce soit, et ces pratiques devant être compatibles avec le principe de liberté d'expression. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est les labels. Alors, la norme d'objectivité, par exemple, se labellise. On souligne la traçabilité de l'information en l'expliquant au lecteur. Par exemple, Reporters sans frontières a lancé en mai 2021 Journalism Trust Initiative. C'est une plateforme qui vise à lutter contre la désinformation et en promouvant des médias considérés comme dignes de confiance, à l'issue d'un processus de vérification rigoureux. Alors concrètement, l'association, c'est une association de défense de la liberté de la presse, donc a mis une application numérique via laquelle les médias peuvent demander à recevoir le label. Donc il y a un processus en trois étapes. Il s'agit d'auto-évaluer leur conformité par rapport à la norme du label. Donc il y a une batterie de critères professionnels qui est élaborée. Ensuite, dans un deuxième temps, les médias pourront rendre public le résultat de leur auto-évaluation sous la forme d'un rapport de transparence. Et puis enfin, il y a un audit externe donnant lieu à une évaluation indépendante par un organisme certifié lui aussi. Autre exemple, en 2019, les journaux membres de l'Alliance de la presse d'information générale, donc par exemple, je cite Ouest France, se sont engagés à signer une charte de traçabilité. Aujourd'hui, il y a plusieurs titres de presse qui ont signé cette charte. Encore hier, le 6 décembre, Google et l'AFP ont annoncé qu'ils allaient créer un programme de lutte contre la désinformation qui va s'appeler Objectif Désinfox. Alors, quel est le problème de ça ? L'avantage, c'est que ça crée des degrés de transparence. Et ça aussi, dans les bibliothèques, par exemple, ça peut être traduit par une signalétique. Donc c'est avantageux en un sens, puisque par exemple, on peut imaginer dans les bibliothèques des journaux, et puis en dessous, des labels de confiance donnés au lecteur en disant « bon bah voilà, là, ce titre de presse a reçu tel label, donc vous êtes sûr que c'est pas l'actionnaire qui a la main dessus, comme on voit dans certaines caricatures ou avec une personne avec des énormes griffes qui vise un journal. » Non, on peut avoir une sorte de label de confiance, très visible, par un cartel. Mais le problème de ça, c'est que ça devient un peu comme l'alimentation ou le bio. On voit la nourriture qui est labellisée. Donc c'est bon, vous pouvez en manger, ce ne sera pas une pomme empoisonnée. Donc c'est une autorégulation qui est, à mon avis, de toute façon indispensable, puisqu'il s'agit comme de déontologiquement de répondre de ce qu'on écrit. Ça, c'est attendu. C'est comme dans tous nos métiers, on a des rapports. On doit rendre raison de ce qu'on fait, non seulement aux yeux du lecteur, envers le lecteur et envers les personnes qui ne nous lisent pas. On doit savoir, les citoyens doivent savoir comment se construit l'information. Mais le problème, c'est que ça donne un peu l'impression de comités de surveillance autoproclamés et de médias qui se regardent entre eux. Et surtout, le détox, la traçabilité, la qualité, ça fait vraiment marché alimentaire. C'est une analogie qu'on peut s'autoriser. Parce qu'en fait, pourquoi ça ne suffit pas ? C'est comme disait Loïc Blondeau tout à l'heure, expliquer, ça ne suffit pas. Alors oui, les sources sont tracées. Oui, c'est pas les journalistes ont fait leur travail consciencieusement et selon les règles de la profession. Alors c'est un minimum, mais ça ne suffit pas à gagner la confiance des lecteurs. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens veulent plus que ça. Ils veulent plus que ça. Alors, il y a un deuxième problème plus profond, c'est qu'on est vraiment à l'ère de la post-vérité. Ça a été dit avec Trump, mais c'est une tendance de fond. Ce qui est sur Internet, c'est pas nouveau qu'il y ait de la propagande ou de la désinformation. Il y en avait avant Internet, souvent sous la forme de fanzines. Je sais pas si vous vous souvenez, même quand on était en lycée avant Internet, où Internet n'était pas très, très fréquenté, c'était très cher. Il y avait des fanzines, il y avait des brochures, il y avait aussi des publications qui étaient, aujourd'hui on dirait que c'est du complotisme. Donc c'est pas du tout nouveau ce fait. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'elles coexistent avec des informations transparentes et sourcées, dans les mêmes espaces. Donc vous pouvez toujours avoir un label, un article du Monde sur Facebook, depuis Facebook, qui est labellisé, transparence, vérifié, vous pouvez même aller leur poser des questions, ou Libération sur fact-check. Pendant les 5 minutes où vous aurez regardé votre Facebook, par exemple en attendant le métro, vous aurez été en contact visuel, l'occasion de voir, de n'importe où et n'importe quoi aura été beaucoup plus grande qu'autrefois où il fallait quand même aller chercher les fanzines, aux endroits où ils restaient à leur place. Là, tout vient à vous en même temps. Et c'est justement là où la bibliothèque, je reviens là-dessus, fait contrepoids, parce que dans la bibliothèque, l'information fausse ne circule pas plus vite que l'information vraie. Imaginons qu'il y ait un livre dans une bibliothèque où il y a des données qui sont plus exactes, scientifiquement. Le livre n'a pas forcément été retiré des rayons, et c'est des recherches qui datent un peu, et c'est plus exact. Ces informations ne vont pas circuler plus vite. Tous les livres sont rangés de la même manière, et sont empruntés, sont sortis au même rythme. Alors que sur Internet, quand il y a des choses fausses, pour peu qu'elles soient enrobées d'un discours émotionnel, on le sait, ça a été mesuré plusieurs fois. La fausse information circule beaucoup plus vite qu'une information exacte scientifiquement ou qu'une information ou qu'un correctif apporté. Alors qu'en bibliothèque, l'algorithme est humain en quelque sorte, et donc par exemple, on peut mettre en avant, d'ailleurs ça se fait, un présentoir avec les derniers livres de, par exemple, de la recherche scientifique sur telle maladie. Ou par exemple, là on est en période de pandémie, sur le Covid. C'est vraiment, là c'est scientifique, c'est la bibliothèque qui décide de mettre en avant certains ouvrages, et donc le lecteur va tout de suite tomber dessus. Alors que sur les plateformes, c'est le contraire, on va tomber d'abord sur les choses les plus invraisemblables. Comment se guérir du Covid ? Au début du Covid, il y avait ça sur Facebook. Hein. Vous prenez des potions avec de l'orange, de l'ail, vous les mettez dans les oreilles, vous secouez, et puis vous n'aurez pas le Covid. Alors ça, c'est, oui, ça fait rire tout le monde, mais dans une bibliothèque, vous imaginez s'il y avait ça ? la bibliothèque fermerait dès le lendemain. Alors que sur Facebook, ça a mis un an à force de régulation, de demande de régulation des plusieurs gouvernements pour que ces informations soient retirées par le moyen du modérateur. Donc là, on y a quand même un levier presque de sûreté sanitaire à échelle de la nation, c'est les bibliothèques qui vont pouvoir tout de suite efficacement donner accès, un accès durable et à un rythme encore plus rapide que ne le font l'information sur les réseaux sociaux, à des informations scientifiquement fiables et accessibles à tous. C'est-à-dire pas forcément des livres d'experts trop compliqués à lire pour ceux qui n'ont pas fait d'études scientifiques. Donc le problème de la post-vérité, et ça touche aussi beaucoup les adultes. On dit toujours que c'est les jeunes qui sont les plus sensibles aux fausses informations. Je ne suis pas sûre que ce soit très exact en 2021, pour avoir quand même été dans des lycées. J'ai eu l'impression, alors peut-être que c'est moi qui ai trop d'espérance, mais j'ai eu l'impression que les jeunes étaient assez avertis de ce qu'ils pouvaient voir sur Internet et vraiment de la nécessité d'aller faire ce qu'on appelle le fact-checking. Ça, je crois que c'est entré dans les esprits scolairement. Faire retracer les sources, notamment dans les images. Est-ce que cette image est exacte ? Et là, il y a une culture vraiment de l'éducation aux médias qui est en train de se développer dans les écoles, et ça porte ses fruits, puisque dans les lycées, maintenant, les gens se disent « Non, on ne va pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. » J'attire, par exemple, votre attention sur une initiative qui a été prise, il n'y a vraiment pas longtemps, par la revue des médias de l'INA, au collège Pablo Picasso de Montesson, dans les Yvelines. Donc, il y a une classe média qui existe depuis 2014, et là, c'est des professeurs en synergie, ensemble, donc professeurs de français, professeurs de technologie, qui ont réussi à créer un média scolaire, et donc sur plusieurs années, interdisciplinaire. Et donc là, il y a vraiment une culture de la média, du média et de l'image et de l'information qui est en train de prendre dans les écoles. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais le problème, c'est que dans les bibliothèques, vous voyez des gens qui sont déscolarisés. Qui sont-ils ? C'est les adultes, par définition. On est déscolarisé quand on n'est plus à l'école. Et en fait, on ne pense pas à ça. On a l'impression qu'une fois qu'on a fini notre scolarité universitaire, on a master, doctorat, c'est bon, on est comme vacciné. On n'est pas du tout vacciné. Tout est à faire en permanence, en fait. Et c'est pour ça que les bibliothèques, là aussi, je réinsiste là-dessus, la force des bibliothèques, c'est qu'elles sont capables de s'adresser à des adultes que l'école ne prend plus en charge, en quelque sorte, et qui n'ont pas conscience de ne pas être forcément sensibilisés aux évolutions que peuvent prendre les fausses informations sur Internet. Là, on a, imaginons, dans 10 ans, il va y avoir le métaverse, c'est-à-dire la réalité virtuelle. Les informations, ça va être un peu comme dans, pour faire vite, ça va être un peu comme dans un jeu vidéo. On aura nos lunettes et les médias forcément vont développer des contenus. Alors là, on sera dans une position qui ne sera pas vraiment une position critique, puisque ce sera celle du jeu. Donc on aura envie plutôt de s'amuser, de faire du divertissement. Et nous serons diffusés par ce casque ou ces lunettes virtuelles des informations de première importance, par exemple sur le discours du Premier ministre au sujet des mesures de sûreté sanitaire, par exemple. Et là, n'importe quel média en métaverse, sous le manteau d'un avatar, pourra nous dire « Bon, bah, Castex a dit ça ». Enfin, j'espère qu'il ne sera plus lui dans 10 ans. Il faut un turnover démocratique. Mais vous voyez, c'est l'idée. Et là, par exemple, les adultes que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas encore éduqués à ça. Même quand on y prête attention, même moi, c'est un de mes sujets de prédilection, très bien, mais je peux aussi me faire avoir. Pour l'instant, je ne suis pas encore suffisamment armée. Donc en fait, il y a une éducation tout au long de la vie qui est très importante et que les bibliothèques peuvent prendre en charge. Donc l'ère de la post-vérité, elle se développe non seulement à travers une pluralité. Là, on connaît, sur deux dimensions, on connaît notre espace réel, où il peut aussi y avoir dans les livres, par exemple, quand vous allez dans certaines librairies ésotériques, il n'y a pas qu'Internet où il y a des fake news. Il y a aussi dans les livres où on trouve toutes sortes d'arguments complètement rocambolesques, notamment tout le registre, toute la niche du développement personnel, qui vise beaucoup les femmes. Là aussi, la question de l'éducation scientifique des femmes, je pense que c'est vraiment à prendre en compte dans la cause de l'émancipation des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes en droit. Et en fait, parce que beaucoup de ces livres ésotériques s'adressent aux femmes avec des arguments complètement avilissants et qui les incitent pas à développer leur esprit critique. Donc ça, Ça fait partie aussi, Internet en fait pas. Sur TikTok, on retrouve tous ces contenus qui s'adressent aux femmes un peu. Ça vise vraiment les femmes comme personnes fragiles et qui est prête à absorber tout ce qui est irrationnel. Mais c'est un vrai sujet de société. Et justement, l'éducation aux médias, ça fait partie de ça. Comment les médias peuvent aussi restaurer la confiance en s'adressant universellement à tout le monde et non pas à des communautés en particulier. Pour c'est la défense de l'égalité des droits, c'est-à-dire qu'on s'adresse à tout le monde ayant la même valeur, rationnelle, ayant la même capacité à entendre des faits et des arguments rationnels. Donc ça c'est très important. Une autre chose aussi qui explique la perte d'influence des tiers médiateurs que sont les médias, c'est qu'en fait le doute méthodique a été presque supprimé en quelque sorte de la culture qu'on a, parce que sur Internet tout est certitude. Après vous pouvez croire tout ce que vous voulez, mais c'est pas grave, on vous impose tout comme des certitudes. Et alors surtout, pire que ça, on vous dit qu'il faut savoir. Ça c'est un des effets pervers en fait de la défiance envers les médias, c'est qu'on va vous dire le média doit être un acteur de certitude. Et c'est là où c'est pour ça que j'ai des réserves par rapport à tout ce qui est labellisation. Labellisation donne l'impression que c'est bon, c'est labellisé, on a raison, on peut croquer dans le fruit, les yeux fermés. Alors qu'en fait, il y a des choses qu'on ne sait pas en tant que journaliste, ou des choses qu'on a manquées, ou des choses qu'on va savoir, mais après, une semaine après. Par exemple, il y avait eu ce qu'on appelle l'affaire de la Ligue du LOL, qui avait fait l'objet d'un, ce qu'on appelle un emballement médiatique, je dirais plutôt une précipitation, dans les deux sens du terme, précipitation au sens où l'information est diffusée trop vite, et précipitation au sens de météorologique, où il y a une pluie tout d'un coup qui s'abat, et après on s'aperçoit qu'il y a des nuances. Il y a des choses qu'on sait que plus tard, on ne peut pas avoir tout en main, la vérité qui s'affiche comme ça, comme une lumière. C'est bien le problème. Ce n'est pas un stimuli visuel. Ça se construit sur le long terme. Et ça, on a perdu peut-être cette culture à la fois de l'incertitude de l'instant, on ne sait pas tout de suite, et la vérité va se construire difficilement, et même dans nos esprits, parce que qu'on le veuille ou non, là, ce n'est pas une question de biais de confirmation ou de bulle algorithmique, c'est qu'on a toujours des préjugés, puisque quand on avance... mentalement sur les bases qu'on a de notre expérience. Donc forcément, elle est faite, les jugements sont souvent empiriques. C'est-à-dire qu'on les forme après avoir vécu des choses, on se dit tiens, maintenant, voilà comment je vais former mon jugement sur les choses. Sauf que c'est jamais exact puisque le futur, on le connaît pas. Donc à chaque fois, on doit se réadapter. Et quand on écrit des articles en tant que journaliste, on n'est pas du tout pur de préjugés. On a des bonnes intentions, qui sont de dire la vérité, d'être objectif, de pas être militant quand on écrit, même si on peut avoir des engagements sur certaines causes en choisissant notre langage, il faut s'en justifier, il faut justifier de la façon dont on problématise, et il faut toujours garder l'idée du pluralisme. N'importe quel lecteur, qu'il soit de gauche ou de droite, doit pouvoir nous lire et discuter après l'article. C'est une règle déontologique. Mais le problème, c'est qu'on a quand même quelques préjugés. Et alors, comment faire ? On a des préjugés et on a aussi des incertitudes. Ça a été le cas, par exemple, pendant 2 ans avec cette épidémie de Covid. Au début, il y a beaucoup de journalistes qui disaient « c'est qu'une grippette ». Et moi-même, n'ayant pas fait d'études scientifiques approfondies, j'étais incapable de savoir ce que c'était que ce Covid. Donc on va écrire sur des sujets, on va en parler, même si on ne prétend pas écrire des articles spécialistes sur le sujet, avec un degré d'incertitude très fort qu'il faudrait presque signaler au lecteur. Attention, c'est pas le parental advisory, c'est attention, degré d'incertitude très fort. Parce qu'effectivement, on était tous démunis. Il y a eu l'histoire du pangolin. En fait, on s'est aperçu que cette petite bête n'était pour rien. Mais au début, on était tous seuls. Quand même, c'était incroyable. Et on a regardé sur Internet, au début de l'année 2020, plein d'articles sur le pangolin. Qui est le pangolin, cet animal ? Alors qu'en fait, c'était pas du tout le sujet. On s'est tous un peu trompés. Donc, il faut aussi faire admettre, et notamment aux adultes, que quand on va... Et ça, c'est un des cris de défiance, parce que les gens se disent « Ouais, voyez, ils savaient rien, en fait, c'était ni la chauve-souris, ni le pangolin, ni Wuhan. Voyez, les médias, ça sert à rien de les lire, puisque finalement, ils se plantent. C'est une lecture a posteriori des événements. Non, justement, il faut avoir une attitude plus rationnelle en se disant « Ce qu'on va lire peut être démenti un mois après. » La seule question, c'est que quand on écrit, on doit faire comprendre au lecteur, pour engager sa confiance, une sorte de contrat de confiance, « Attention !» il est possible, étant donné les éléments que j'ai après mon enquête, à l'heure qu'il est, que je vous fournis là comme un service, puisque c'est mon travail de rassembler les éléments d'une enquête, de recouper les sources, Attention, il est probable que dans 3 mois, les conclusions que j'ai tirées maintenant paraissent ridicules. Et il faut aussi, pareil dans la recherche scientifique, hein, on avance toujours comme ça par falsification. Et je pense que ça, c'est vraiment une culture qui s'acquiert à l'école et que les adultes, on a tendance à oublier. On veut un fait, on veut que ce soit établi et puis vrai, ad vitam aeternam. Alors que le flux de l'expérience de la vie n'est pas du tout ainsi. Donc ça, c'est une éducation au doute qui est quand même assez primordiale. Et c'est là où on parlait des bibliothèques universitaires et des universités qui ont aussi un rôle à jouer dans cette synergie entre médias, écoles et bibliothèques, comme force publique, en quelque sorte, je dirais, force de service public. Par exemple, quand on est en lycée, au CDI, moi, j'étais en collège de ZEP, et ben les bibliothécaires du CDI nous avaient expliqué ce que c'était qu'une bibliothèque universitaire. Moi, je ne savais pas. Personne ne savait, on était en périphérie, en ZEP, ils disaient « bah oui, voilà, c'est ça, et nous, on fait partie d'un grand monde que sont les bibliothèques ». Et on avait commencé à faire, c'était il y a longtemps, mais ça ne s'appelait pas l'EMI, mais c'était ça, des journaux, en disant « bah voilà, vos sources, vous devez aussi aller les chercher en bibliothèque universitaire ». Donc ça, c'est important aussi d'avoir que les publics aient ce paysage mental du service public, de la lecture et de l'accès à l'information. Parce que sinon, ils auront que dans les yeux, Facebook, vous réveillez le matin, bon, bah, allez hop, Facebook, ou maintenant Facebook est un peu pour les plus âgés, pour les plus de 60 ans, mais Telegram ou TikTok. Et TikTok qui est un nid de fausses informations, d'ésotérisme et de confusion. TikTok, c'est quand même assez impressionnant. Parce que vous pouvez trouver des contenus de maquillage, de jeunes filles de 16 ans, et juste après, ça c'est vraiment, c'est pas une plaisanterie, c'est vrai, vous sweepez, et tout d'un coup vous avez une intervention de Jean-Baptiste Djebbari, qui est très intéressante, parce qu'il veut être au plus proche des jeunes, ce qui est bien, mais ce qui pose aussi une question, c'est que il va se retrouver, son intervention va être coincée entre deux contenus complètement divertissement, pour ainsi dire, et donc on peut se demander si le public est disposé à l'écouter, à l'entendre. Alors là aussi, j'en reviens aux bibliothèques. Justement, en bibliothèque, on instaure une disposition à l'attention. Et ça, c'est vraiment important. Parce que lire un journal ou lire un livre, c'est comme apprendre à penser hors de soi-même. Donc il y a cette extériorité, j'insistais là-dessus. C'est pas seulement le lieu, puisqu'il y a aussi des bibliothèques, il y a aussi des ressources en ligne, donc on peut être de chez soi. Ou pendant la pandémie, on n'a pas pu. Les bibliothèques étaient fermées pendant un temps, donc les ressources étaient en ligne. Et pourtant, cette topographie existe quand même en virtuel. Il faut penser hors de soi, parfois même contre soi-même, et surtout la question de l'attention, puisque dans les bibliothèques, il n'y a pas vraiment on n'est pas appelé à se disperser de contenu en contenu. On prend le temps de lire les livres qui sont posés. Ça, c'est une habitude. Ça paraît assez anodin, mais en fait, c'est très, très important. Parce que pour se construire une personnalité et apprendre, il faut prendre le temps, comme on fait à l'école, en fait. Plutôt que de papillonner de contenu en contenu où notre attention se disperse, et puis après, on peut justement être beaucoup moins... notre acuité critique perd, quand bien même on a fait des études de philosophie. Si je regarde TikTok pendant une demi-heure, je ne suis pas en état, après, de lire un livre... un essai scientifique ou politique contemporain en ayant toutes mes dispositions, toutes mes facultés d'entendement, parce que je serais complètement agitée et dispersée par TikTok. De la même façon, c'est que les fausses informations ne sont pas forcément à prendre, et ça, c'est peut-être un travail plus long à faire, et ce qui se fait dans les écoles, mais même plus long, à prendre comme des sortes de, comme disait Loïc Blondeau, les complotistes. Ça, c'est, on ne peut pas se contenter de créer des catégories comme ça, parce que c'est source de défiance aussi. Dans toutes les civilisations, il y a eu des fausses informations, de la propagande orchestrée, ou même des mythes, ou des rumeurs, ou ce qu'on appelle un mythe urbain. Et ces matériaux, ils ont un intérêt. Même la télé-réalité, on va dire, hein, tout ça, plutôt que de mépriser et dire ça n'existe pas, non, on s'intéresse pas, on va lire que des publications scientifiques, la télé-réalité, je ne connais pas. Non, plutôt, on peut s'y intéresser et se demander quels sont les processus de fabrication de ces émissions, les processus de fabrication de ces petites séquences, ces stories sur TikTok ou sur Instagram. quels sont les effets recherchés, les intentions de l'auteur. Donc à chaque fois, un œil critique sur tout ce qu'on regarde. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'éducation aux médias et de l'école, mais qui peut aussi se retrouver en bibliothèque, à travers, par exemple, des ateliers, je sais que ça se fait. Donc c'est vraiment le service public, en fait, peut pas... Enfin, même, en fait, est obligé, en fait, d'intégrer tout ce qui existe et de le retravailler avec les publics. C'est ça l'idée. C'est pas vraiment de... C'est ce qu'on appelle l'élitisme, mais je sais pas si le mot est très heureux. En fait, c'est-à-dire de discriminer les contenus qui seraient assez bien et les autres qui seraient, on va dire, pourris, au sens propre du terme. En fait, non. On travaille avec les publics, avec les gens qui sont là, avec ce qu'ils produisent et ce qu'ils regardent. Et après, on fait ce travail, justement, de discernement avec eux. C'est une inclusion. C'est ça qui est intéressant, c'est que le numérique, justement, alors oui, il crée des polarisations et des bulles de filtre, mais en même temps, il permet, ça c'est une sorte de correctif, à ses propres failles, c'est ça qui est intéressant, c'est jamais tout noir ou tout blanc, c'est qu'il rend possible le participatif, en pratique, pas seulement en pensée. C'est-à-dire que la conversation d'égal à égal entre les journalistes et les lecteurs. Alors ça ne veut pas dire que tout se vaut et que les journalistes n'ont pas de compétences précises pour mettre en forme des contenus, pour réfléchir à un numéro, à la logique d'un numéro, de la même façon qu'un éditeur. Un lecteur n'a pas les mêmes compétences qu'un éditeur quand il écrit un livre. Chacun a ses compétences. Ça n'empêche pas un dialogue de pair à pair, d'égal à égal, où par exemple les lecteurs peuvent être invités à ce qu'on peut appeler une horizontalité intermédiaire. C'est-à-dire, alors par exemple, je peux vous citer ce qui a été fait avec Hyperlien par le quotidien suisse Le Temps, qui vraiment, c'est vraiment une entreprise intéressante, c'est très récent. Donc en fait, l'objectif de ce projet, Hyperlien, c'était que les lecteurs commencent à mieux comprendre et à mieux se représenter, parce qu'il y a un travail de représentation aussi dans la confiance, dans la reprise de confiance, le métier de journaliste. D'ailleurs, quand vous voyez les arguments les pires sur les journalistes ou sur les fonctionnaires ou sur, justement, bah, tous ces intermédiaires, tous ces corps intermédiaires, c'est une question de... Il y a un travail à faire sur les représentations ou les professeurs, même parfois par les journalistes. D'ailleurs, c'est ça qui est pire, c'est que les acteurs publics, parfois, se méprisent entre eux. Il y a un travail de représentation à faire et il n'y a rien de mieux pour ça que d'aller sur le terrain et dire, bon, bah voilà, on prend 10 lecteurs, vous venez dans la salle de rédaction, on va vous montrer qu'est-ce que représente notre travail. De la même façon que l'éducation aux médias qui invite des journalistes, voire des professeurs, par exemple de collège, et bien là, vous vous rendez compte ce que c'est qu'être un professeur de collège. Et il ne travaille pas 35 heures par semaine. Il travaille beaucoup plus. Donc c'est, et là, on se dit, ah bah oui. Donc je pense qu'il y a c'est une cohésion sociale, hein, tout simplement. Hein. C'est ce qu'on appelle plus techniquement horizontalité intermédiaire, ça veut dire connaissez-vous les uns les autres, tout simplement, en tant que citoyen. Donc montrer, justifier, inciter, Hyperlien, c'est ça en fait. Hein, c'est les journalistes qui rendent raison de leurs choix éditoriaux et qui éventuellement, avec les lecteurs, vont fabriquer quelques articles. Donc il y a toujours une question de proportion à garder pour que ce ne soit pas non plus l'occasion de défendre des intérêts privés. Imaginez qu'un lecteur arrive et dise « Moi, je veux qu'on parle de moi, de mon entreprise, de petit chocolat que j'ai fait la semaine dernière, comme ça va me faire de la pub. » L'encart publicitaire. Ou imaginez dans une bibliothèque, des lecteurs qui arrivent et qui ont dit « Bon, bah moi, j'aimerais bien que vous me commandiez les 4 livres, là, parce que c'est les bouquins de ma copine. » Et c'est cool. C'est la démocratie, moi aussi, j'ai le droit de dire ce que je veux. Non, non. Ça, c'est juste le droit du plus fort. Donc, dans la démocratie, la pratique démocratique, c'est toujours ça qui est difficile. C'est comment représenter, travailler avec, faire œuvre commune entre lecteurs et les personnes qui... Bah, là, les bibliothécaires ou les professeurs ou les journalistes, sans qu'il y ait une logique d'exclusion, mais en même temps que clairement, les rôles ne soient pas mélangés. C'est ça qui est dur, en fait. Parce qu'on est tenté de dire « Oui, moi, je veux ci, je veux ça, c'est la démocratie, c'est le peuple, et le peuple, bah, c'est moi. Ah, » ah non. Il faut, la délibération en commun est assez difficile. Mais c'est un des enjeux, justement, qui se pose aujourd'hui. Quelle forme de démocratie est viable. Donc ça, c'est une médiation. Là, par exemple, dans le cas de Hyperlien, j'y reviens encore, c'est une médiation conversationnelle, donc de discussion, entre la narration et l'événement et sa réception. Donc l'événement, par exemple, il s'est passé, alors qu'est-ce qu'il s'est passé, par exemple, une inondation à tel endroit, l'événement, comment on va le raconter et comment cette narration va être reçue. Parce que ce n'est pas l'événement lui-même qui est interprété, c'est sa narration. C'est la narration qui est l'objet de défiance. C'est bien ça la défiance dans les médias. C'est regardez comment vous racontez ça. Exemple très fréquent, c'est la France dite rurale ou la France des périphéries avec les gilets jaunes. Vous parlez de nous comme des gens qui n'ont pas beaucoup de savoir, qui n'ont pas beaucoup de culture. On fait un reproche de centralisme parisien culturel. Et ce n'est pas entièrement infondé. Et pour, là aussi, il y a une question économique qui se pose. C'est que les médias, comme les bibliothèques, ont besoin forcément de moyens humains et financiers pour pouvoir, à très fine échelle, hein, c'est ce que disait Loïc Blondeau tout à l'heure, ça doit être fait à très fine échelle, voir, avoir cette perception de ces, non seulement des événements locaux, mais en plus de la façon dont ils sont racontés dans leur narration par les gens. Parce que souvent, c'est ça, ce maillon manquant, c'est le maillon de la narration. On arrive de Paris, on est parachuté. Tiens, il s'est passé une inondation. Ah bah là, on va aller voir, on va aller filmer l'eau et puis les trois dames. On va aller interroger une dame dont la maison est inondée. Bon bah ma petite dame, ah bah ouais, c'est idiot. Il y a de l'eau partout. Allez hop, on repart. Alors qu'en fait, les narrations locales vont être complètement différentes. Et c'est là, c'est une richesse à puiser. Il faudrait qu'il y ait systématiquement des journalistes sur place. Là, je parle à l'échelle de la France, mais ça vaut encore plus parfois quand on couvre l'actualité internationale. Il faut toujours aller l'échelle la plus fine, c'est-à-dire le territoire, le terrain, et après remonter à notre rédaction. Là, si c'est à Paris, ou même si c'est à échelle régionale, si par exemple c'est une grande ville, c'est à Lyon, et qu'il y a des inondations près de Valence. Donc c'est vraiment, ça aussi, ça demande du temps et des moyens, cette démocratie qui est à la fois représentative et à l'écoute. Donc c'est sûr que c'est beaucoup, c'est la défiance. Vient de l'information, l'information diffusée par les plateformes, mais elle vient aussi parfois d'un renoncement à la notion de service public à très fine échelle, et aux intermédiaires, et à ce qu'on disait tout à l'heure, aux corps intermédiaires, à l'importance des corps intermédiaires. Sans eux, il ne peut pas y avoir de circulation de la démocratie, parce qu'on arrive par flash. Et là aussi, on prend une photo, on fait un titre, on tire une conclusion, et voilà. Et ça, c'est facteur de défiance, parce que forcément, ce sera partiel, et parfois même complètement faux. Donc là, c'est sûr qu'on a toutes les clés de la défiance possible, et cette défiance ne sera pas illégitime. Ce sera pas, on ne pourra pas dire que c'est des complotistes. Donc c'est ça aussi la question de la démocratie, c'est l'indépendance, l'indépendance des médias, mais qui doit s'appuyer sur un réseau de services publics assez fort. Donc là aussi, par rapport à l'éducation sur le long terme, c'est une question de long terme, une éducation aux médias, à l'école, c'est l'esprit critique. Comment faire pour que l'esprit critique remplace l'esprit de critique, c'est-à-dire de tout critiquer, de se méfier de tout. Bon, bah, on vous donne un journal Libération, ah bah non, c'est un truc de gauchiste, Le Figaro, non, ils sont tous de droite, je ne vais pas le lire. Ce genre d'attitude butée. Et qui n'est pas seulement dû à l'usage des plateformes, hein, qui est un défaut d'exigence envers soi-même en tant que citoyen. Et c'est une éducation aussi qui fait partie du rôle de l'école, l'éducation au pluralisme démocratique. Vous ferez votre opinion après avoir pris le temps et prêté attention à tous les courants qui expriment une façon de voir l'information. Quand même, elle a été sourcée, labellisée. Il y a toujours un parti pris. Et ce parti pris, il faut l'identifier, le reconnaître, et après en faire son propre jugement là-dessus. Donc, après, je voulais en venir à quelques suggestions, quelques pistes de réflexion. Je saute un peu. Comment créer une meilleure synergie, en fait, justement, entre ces acteurs publics qui sont porteurs de confiance. Mais attention, confiance, quand je dis ça, ça fait un peu... Il faut pas que ça devienne une sorte de crédulité. On peut toujours avoir un esprit très critique. Au contraire, c'est ce qu'il faut encourager, parce que sinon, il n'y aura plus ce jeu démocratique. À échelle des professionnels de l'instruction publique, donc les professeurs, du secteur des médias et de la culture, évidemment, et ça se fait déjà, créer des synergies, encourager les synergies d'information. Mais peut-être, par exemple, en recoupant les données sur les usages et les pratiques. Par exemple, entre les... Ça, j'ai vérifié. Alors là aussi, je peux me tromper. Il n'y a peut-être pas encore à échelle nationale, par exemple, une collecte de mégadonnées, pour ne pas dire le mot big data, à échelle du territoire français, par exemple, quels sont les usages dans les CDI, donc des différents collèges et lycées. Ça nous apprendrait pas mal sur les pratiques des élèves en fonction aussi de leur lycée d'origine. Les bibliothèques universitaires, les bibliothèques publiques. Et comme ça, on pourrait voir un peu quelles sont les pratiques et quels sont les points qu'il faudrait retravailler. Et même les initiatives les plus intéressantes qui seraient du coup mises en avant. Une sorte d'immense fichier national. Continuer avec, par exemple, des formats, développer des formats plus inattendus, parce que là, on parle toujours de l'image, et de, comme si c'était une photo, et de la rédaction de l'écrit avec le choix des mots, très bien, mais il y a aussi la familiarisation, et ça, les bibliothèques ont un rôle à jouer, puisqu'elles donnent beaucoup à voir. La data visualisation, justement, les infographies, ça, ce sont des données qui ne sont pas évidentes, parce qu'il faut avoir un peu étudié les statistiques, et puis la géographie, parfois, ou les sciences économiques, et presque des ateliers de data visualisation, d'infographie dans l'information. Ça, ce serait bien de renforcer ça avec des journalistes, des professeurs et des bibliothécaires, par exemple, pour les jeunes et pour les adultes. Et il y a aussi un phénomène, bien sûr, vous le savez, quand on est adulte, qui est très frustrant, c'est qu'on a appris plein de choses et il y a une déperdition, une évaporation de certaines connaissances parce qu'on les utilise moins. Et il faut toujours lutter contre ça toute sa vie. Et les bibliothèques sont pour ça, peuvent être vraiment des lieux de restructuration des connaissances à échelle des individus, des citoyens. Donc c'est vraiment une question presque de lettrisme numérique, puisque les infographies sont sur Internet. Donc il y a aussi une possibilité d'innover à travers des technologies pédagogiques. On pourrait penser, mais là c'est vraiment une hypothèse, travailler avec le secteur industriel au design des outils qui sont mis à disposition dans les bibliothèques, par exemple, mais aussi dans les lycées. Par exemple, aujourd'hui, les écrans, les interfaces, ne sont pas vraiment dessinés pour l'apprentissage. On a un écran, et là, on pourrait imaginer que le métaverse nous aide avec, par exemple, des projections en disant les sources de... La labellisation prend sens. D'où viennent vos sources comment ça s'est construit. Donc, une sorte de méta-lecture. Mais avec prudence, parce que ça peut vite prendre la tête et vite aussi accaparer l'attention. Donc c'est toujours un peu le problème. Dès qu'on va en rajouter, normalement, on ne devrait même pas avoir besoin de toutes ces prothèses numériques pour lire un article. Et là, on rajoute de la labellisation, de la discussion après, des avertissements en quelque sorte, des compléments, parce qu'il y a tout ce travail de médiation à faire, mais peut-être par petites touches, parce que sinon, ça risque d'être complètement excessif. Un peu comme au cinéma, où parfois, vous avez une séquence et puis il y a 4-5 lignes d'explication. Donc, il y a toujours une question de proportion, là encore. Et bien sûr, il faut aussi que tous ces outils technologiques ne deviennent pas des facteurs d'inégalité supplémentaire, tant sur le plan logistique, en quelque sorte, où vous êtes pourvu ou pas d'outils, donc les mairies sont pourvues ou pas, sur le plan du lettrisme. Donc vraiment, il faut que sur tout le territoire, les gens puissent bénéficier du même degré de culture à ces nouveaux outils de lecture, à tous ces nouveaux portes d'accès de la lecture, de l'information et des connaissances. Parce que les connaissances scientifiques, ce n'est pas de l'information, c'est quand même deux choses bien différentes. Et la troisième chose, évidemment, ça c'est du côté du législateur. Comme je l'ai dit, l'information, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Et donc, la confiance dans les médias et même dans les lieux comme les bibliothèques, c'est quelque chose qui se fonde sur le contrat social, donc sur la notion de service public. Il ne peut pas y avoir de confiance si on dit aux gens que c'est tous des gros complotistes qui n'ont rien compris et que de toute façon, ils n'y connaissent rien. Là, évidemment, il y aura une fracture sociale, pour reprendre le terme de Jacques Chirac, qui deviendra un vrai danger pour la démocratie.
Merci Clara Schmelk. Y a-t-il des questions dans la salle ?
Bonjour, je me posais juste la question savoir si la fracture sociale n'allait pas déjà avérer à partir du moment où, dès maintenant, tous les gens qui sont complotistes, qui sont soi-disant donc complotistes qui estiment que le vaccin n'existe pas, qu'au contraire, il est nuisible, ces gens-là ne rentrent plus à la bibliothèque. Voilà, c'est fait, j'ai envie de dire c'est fait, quoi.
Alors, ouais, vous avez quand même tout à fait raison de rappeler ça, parce que comment faire ? Parce qu'il y a la question de l'accès à la bibliothèque, j'ai dit que c'était un lieu préservé, un lieu de confiance, mais encore faut-il que les gens y aillent. Alors, même en ligne. Et là, peut-être qu'il faudrait user des mêmes méthodes que les plateformes en incitant les gens à aller à la bibliothèque, de toutes les manières. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas récupérer... Moi, je pense qu'il y a quand même moyen de reprendre certaines personnes qui se seraient un peu égarées. Mais ce que vous avez l'air de dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont, pas, qui sont vraiment exclues.
Oui, alors
c'est ça que vous dites. Hein.
Déjà, il y a tous ceux qui ne viennent plus parce que le lieu n'est plus un lieu de confiance. Et depuis le pass sanitaire, ils ne peuvent plus venir, même s'ils le voulaient. Parce que ce sont ces personnes-là qui n'ont pas le pass sanitaire par définition, puisqu'ils estiment, par exemple, que le vaccin va les tuer, ou etc. Et là où ça devient exponentiel, où je dis que la fracture sociale, ça y est, elle est terminée, avérée, c'est que maintenant, ça touche les enfants. Donc les enfants de 12 à 18 ans s'ils n'ont pas le pass sanitaire, donc s'ils ne sont pas vaccinés, puisque maintenant les tests c'est 24 heures, les enfants ils n'ont pas décidé d'être complotistes, ils subissent la culture de leurs parents, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, ils sont étrangers, ils ont peur, ils ne sont pas forcément anti-vaccins, tout un tas de raisons qui font que le service public dont vous parlez, moi j'en ai le cœur serré parce que nous ne sommes plus un service public, c'est terminé. Voilà. Et ce n'est pas une mesure temporaire. On en a pour jusqu'en en juillet 2022, voire plus, quoi. Donc le service public, c'est terminé. Heureusement, la BPI existe encore, mais jusqu'à quand ?
Là, j'allais dire, mais ça, c'est une question de long terme. Est-ce qu'on ne va pas créer des lieux virtuels ? Mais c'est quand même pas la même chose, une bibliothèque en ligne, même augmentée, en métaverse, avec des lunettes. Va pas du tout être la même chose, effectivement, que d'amener ses enfants à la bibliothèque, de découvrir le lieu, les gens, les livres. Et donc là, il y a un vrai problème. Là, j'ai aucune réponse valable à vous donner parce que c'est une vraie question. Cette crainte qui n'a sûrement pas été assez anticipée de la vaccination contre le Covid-19 est un facteur de réticence supplémentaire pour fréquenter les lieux où il pourrait y avoir une reconstruction de la confiance entre l'institution, les publics et les médiateurs. Et là, en fait, tout ce que j'ai dit, c'est entre guillemets, c'est bien gentil, mais s'il y a des obstacles comme ça qui se présentent, effectivement, il y a un vrai problème. Alors comment faire ? On ne peut pas recréer d'autres bibliothèques dans des endroits spéciaux pour non, des mini-bibliothèques pour personnes non vaccinées, parce que là, c'est de la folie, sanitairement. Bah oui, une sorte de attendre la fin de la pandémie, ça fait 2 ans qu'on dit oui, mais ce sera fini cet hiver. L'école va aussi risquer de renforcer le rôle des bibliothèques scolaires. J'allais dire ça, mais c'est un peu la réponse refuge. Et vous pouvez m'objecter que les bibliothèques scolaires vont elles aussi être soumises à des restrictions sanitaires dans peu de temps, à mon avis, puisqu'on s'est aperçu que les enfants pouvaient être porteurs. On s'est aperçu. Les enfants sont officiellement, pour ainsi dire, porteurs aussi du virus. L'éducation des parents, c'est sur le long terme, comme on l'a tous dit, même aussi avec Loïc Blondeau. Donc là, dans l'instant, quand il y a une pandémie comme ça qui nous prend, on n'avait pas vu arriver ça. Comment faire pour que les lieux puissent continuer d'exister et s'adresser à tous et même à des gens qui en fait ne veulent pas une des règles, parce que c'est le problème, c'est qu'il y a des règles à respecter quand on entre. Et là, cette règle, il y a un bon nombre de personnes, quand même plus de 25% de la population, j'ai vérifié les chiffres hier, qui n'étaient pas vaccinées. Donc c'est énorme. Ce n'est pas juste 2 ou 3 qui voudraient arriver de manière à transgresser des règles. Non, non, là, c'est vraiment une tendance. Et donc, comment faire en si peu de temps pour comment dire, réussir à nouveau à s'adresser ? Ce n'est pas une question de reconquérir des publics, j'aime pas du tout ce terme, mais plutôt à s'adresser à tout le monde et pas seulement à des convaincus. Parce que c'est vrai qu'on peut objecter que tout ça, ça marche avec des gens qui sont déjà plus ou moins disposés, voire même convaincus du bien fondé de ces services publics et d'y aller et de se soumettre à la vaccination et à d'autres sortes de règles. Et comment faire pour recréer cette cohésion à la base ?
J'avais, pardon. Excuse-moi, j'avais deux petites questions. La première, c'était parce que vous parlez de processus de labellisation de titres de presse, mais peut-être que j'ai mal écouté, mais est-ce que le fait que déjà ces titres de presse soient présents en bibliothèque et n'aient pas fait, été l'objet d'une sélection de la part d'un bibliothécaire, il y a déjà une forme de labellisation tacite, ça veut dire la bibliothèque a choisi pour vous ces titres de presse parce que elle estime que ce sont des titres de confiance et que la plupart des informations que vous trouverez à l'intérieur sont dignes de confiance, donc pas forcément de labellisation visible, mais c'est une labellisation implicite en fait. Du coup, ça suffit en fait, il n'y a pas besoin
Disais justement, c'est bien le problème, ça devrait suffire, surtout que c'est des titres de la presse professionnelle qui est soumise déjà à des lois de déontologie. Et en fait, le problème de ces labellisations, de ces labels de vérification, de fact-checking, c'est qu'on devrait dire, mais tout article doit être fact-checké, c'est la base de notre métier. Donc là, on rajoute du label au label. Oui. Et c'est un peu comme vous avez entièrement raison de dire ça, parce que c'est un peu comme dans l'alimentation. On va dans un magasin bio, là, juste en face, là, ils vous disent, regardez cette pomme, il n'y a pas de pesticides. En gros, vous n'allez pas vous empoisonner, c'est Blanche-Neige, quoi. Ah bah merci. Normalement, ça devrait être le cas de tout ce qui est en vente, ça devrait être vérifié et mangeable. Donc là, on est dans une surenchère et qui peut là aussi être contre-productive et dire « attends, il vous faut quoi encore le label du label du label et vérifié par un organisme extérieur ?» Et ça fait beaucoup. Donc oui, on a ce problème aussi de la vérification de la vérification.
Et ma deuxième et dernière question, c'était, vous parliez de préjugés à l'égard de la presse notamment au collège et au lycée, donc Libération, vous avez dit, je crois, gauchiste, et puis Figaro de droite.
Des préjugés qu'on pouvait avoir.
Ça, c'est vraiment ça, aujourd'hui, parce que moi, je me rappelle, quand j'étais au collège, peut-être les premières années, j'étais à des années-lumière, j'étais pas d'une conscience hyper éveillée, du coup, je m'en rends compte, mais j'avais pas cette grille de lecture-là, en fait, au collège, par exemple, de ces titres de presse. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les collégiens ont déjà ce formatage, ces préjugés à l'égard des titres de presse.
Peut-être qu'on peut. Oui, enfin moi c'était le cas dans le collège où j'étais, mais ça c'est très discutable. Hein. On peut dire que c'est plutôt en lycée ou à l'université. Non, ça c'est pas. J'ai dit collège, mais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a 75% déjà. La question est trouve une réponse immédiate, c'est que. Ils sont donc 75%, donc si je renverse, il y a très peu de collégiens qui lisent la presse écrite aujourd'hui. Donc, de toute façon, la question ne se pose plus vraiment en ces termes au niveau du collège. Et même les titres de presse, où de plus en plus, il faut s'abonner pour avoir les contenus. Donc déjà, ça écarte aussi pas mal de lycéens qui ne feraient pas forcément la dépense.
Bonjour, merci pour votre intervention extrêmement intéressante. Je ferai référence à l'archipélisation de la société française aujourd'hui en référence au livre Jérôme Fourquet, L'archipel français, avec tous les particularismes qui se développent dans la société française. Pensez-vous qu'un média commun qui s'adresse à tous est encore possible aujourd'hui et comment ?
Un média commun ?
Commun, qui parle à tous dans ce contexte d'archipélisation de la société française.
Alors, un média commun dit comme ça, ça peut donner l'impression que ce serait un peu la Pravda. Je pensais quand même à tout le monde le lit. Non, il y a par exemple, il y a des médias de service public, mais qui ont aussi leur ligne éditoriale. Il y a notamment l'audiovisuel public en France et à échelle européenne avec Arte par exemple, ou par exemple France 24. C'est censé s'adresser à tous et même des journaux. C'était le Figaro tout à l'heure. Il y a une vocation de s'adresser à tous. C'est pas un média particulariste. Il peut y avoir une sensibilité politique à travers les problématiques qui sont posées, la manière dont elles sont abordées. Mais quand même, c'est l'idée de s'adresser à toute personne possible, à tout citoyen qui lit et qui a été scolarisé. Le problème, c'est que vous avez l'air de penser qu'aujourd'hui, les grands médias ne peuvent plus s'adresser à tous et qu'il faudrait recréer une entité susceptible de s'adresser à tous. Ce serait très risqué. Je pense que là aussi, il y a un cheminement aussi des citoyens vers les médias qui est à faire, parce que ça peut être très dangereux aussi de vouloir s'adresser à tous avec les codes, par exemple, de YouTube. On peut dire, une chaîne YouTube qui s'adresserait à tout le monde avec les codes d'aujourd'hui d'Internet, les codes des influenceurs, les codes de la séduction rhétorique actuelle, avec le petit humour YouTube, les séquences de 3 minutes d'attention, les grandes phrases... on a vu ce que ça pouvait donner. Ça, c'est pas nouveau, la question de vouloir s'adresser à tous. il faut assumer aussi de s'adresser à des gens qui vont porter un effort d'attention vers son média. Donc je pense que ça peut être dangereux de vouloir faire un espèce de gros, un seul média unique qui s'adresserait à tout le monde. Avec il y a des codes communs qui sont la syntaxe et la logique. Et ça devrait normalement permettre de pouvoir s'adresser à tous universellement à travers des organes qui sont divers et qui expriment un pluralisme. Je pense qu'on si sans ça, on ne peut pas vraiment espérer une information démocratique.
On va prendre une dernière question et puis vous aurez l'occasion ensuite à la fin des deux interventions.
Merci pour votre intervention. Vous disiez que c'est la narration qui est pas mal l'objet de la défiance à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez idée, dans la formation actuelle des journalistes justement et d'un métier qui est obligé de se transformer pour plein de raisons, de comment est prise en considération et donc comment est intégré à la formation le fait que la narration peut poser question justement aujourd'hui?
Alors justement, à travers l'apprentissage de nouveaux formats, on parlait des codes. Il y a aussi, dans les nouveaux formats qu'on peut avoir, par exemple la story sur Instagram ou sur la séquence sur TikTok ou même des petits encarts vidéo, on peut, à travers de nouveaux formats, créer une narration qui va être gage de confiance. Par exemple, déjà, dans l'attitude du journaliste, en prenant un air moins grand... Là, c'est un exemple très concret, très simple. Au lieu de prendre des airs grandiloquents, comme dans les années 90, où ils allaient quelque part, où ils étaient comme ça, on ne voyait pas le public autour d'eux. Je pense à des émissions comme ce que fait Manon Mella sur France Info, où elle va à la rencontre. Génération 2022, elle va à la rencontre de jeunes Français de tous bords, vraiment, sans aucune censure, leur demander quelles sont leurs motivations, qu'est-ce que c'est que pour eux la politique. Alors ça, c'est un format assez nouveau, parce que c'est pas le micro-trottoir. Elle a des questions bien cadrées. Elle prend le temps de montrer au public qui sont ces jeunes gens et quelle est leur motivation vraiment politique dans leur vie, comment cette motivation politique peut prendre sens. Et ça, c'est un nouveau format qui, à mes yeux, gage de confiance, parce qu'on se dit, bah voilà, elle a pas d'œillère, elle est franche, elle est directe avec son public, elle prend pas les gens pour des cons, disons-le, parce qu'il serait ceci ou cela. Il y a une sorte aussi de... C'est bien montré dans la narration de l'émission. C'est, voilà, les gens ont tous quelque chose à faire valoir. Ils ont un projet dans leur vie et on est à l'écoute. Je pense que dans ces formats, il y a aussi... ce qu'on apprend de plus en plus en école de journalisme, c'est aussi le principe dans la narration d'horizontalité. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui arrive pour raconter mon petit récit que j'ai préparé à l'avance et je prends 2-3 prises de vue, 2-3 interviews que je mets dans le moule de ce que j'ai déjà écrit, de l'idée que j'avais déjà préconçue, et je repars et je le donne au public. Ça ne marche plus. Donc il y a vraiment cet apprentissage de l'horizontalité et des formats qui vont avec, comme ce petit format vidéo ou des stories. Et c'est pas du gadget, et là je pense que c'est un apport des plateformes vers une approche plus démocratique, même de ce qui se passe en France. On parlait d'archipélisation, mais il y a aussi un moyen aussi d'exprimer la diversité des opinions, des parcours de vie, des aspirations des Français, qui ne soient pas du tout à la fois excluantes, condescendantes, ou sous le mode vraiment de la catastrophe, en disant « Regardez, le pays est fracturé, le pays est en sang, les Français sont tous racistes, ou c'est tout ceci, cela ». Non, il y a beaucoup de gens à fine échelle qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, qui n'ont pas du tout, de préjugés négatifs envers leurs voisins. Parfois, il y a des discours qui visent à faire croire que les Français sont... Le déclin de la France, ou au contraire que ils seraient tous racistes. Et ben non, justement, c'est des formats on se fait un peu les petites fourmis à toute petite échelle pour voir vraiment comment vivent les gens et leurs aspirations. Je pense que là, c'est des choses qui se pratiquent de plus en plus, et c'est une des médiations qui est importante dans la narration. C'est une narration qui va être beaucoup plus de médiation et pas seulement un joli récit qu'on va trouver sur papier glacé.